Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je me suis fait un défi avec mes amis. Il y a quelque chose à gagner, des Patek et des Rolex. Ouais, je suis plus gaucher.
Et les pénalties, vous ne tirez pas du droit?
Si.
Pourquoi?
Parce que je tire mieux du droit.
How is your English? Oui, non. Il a dit quoi? So bad, ok.
Passez le bonjour à Daniel Riolo aussi.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Comme tous les soirs, nous sommes en direct bien sûr sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'after, sur After Foot TV. On est partout dans l'after Première Radio de France. Le soir, évidemment, le 32-16 est ouvert. On va parler Ligue 1 ce soir avec Walid Acharchour. Walid est là. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Au stade. Parce que voilà, on est au stade maintenant. On était au stade vendredi pour la première pour Marseille et Strasbourg. On a une partie de l'équipe au stade ce soir. Florent Gautreau est au stade à Rennes. Salut Florent.
Salut Gilbert, salut Walid, salut à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver.
Salut Florent. Depuis quand d'ailleurs? Depuis la Coupe du Monde.
Oui. Depuis la finale.
Oui,
depuis la finale où un certain Ferran Torres a marqué un but.
C'est vrai.
Et je reviens sur un terrain de foot. Ferran Torres marque 2 buts.
Voilà. Aurélien Tirsa également avec tout ce soir. Il est là à côté de toi. Salut Aurélien.
Salut Gilbert, salut à tous. Impressionnant de voir Flo Gautreau dans son stade, hein, quasiment. Il parle aux plus hautes sphères du club. Ça, c'est vrai que c'est impressionnant.
Tout à fait. Je suis un peu chez moi.
Il a sa casquette de Flo The Goat.
Ah oui, totalement. Et j'ai vu les pompes de préparation sur les réseaux. C'est beau.
Oui. Je croyais que son compte Twitter avait été piraté comme le mien. Mais non, c'était bien lui.
Non, moi, c'était bien moi. C'était bien moi.
Tu penses que c'est pas son webmaster, non? C'est pas son, c'est pas son CM, son committee manager, non?
Oui, quand il s'est levé, tu sais.
C'est lui.
Ah ouais, il y avait quand même, t'as remarqué qu'il y avait quand même un assistant réalisateur, puisque c'est pas moi qui filmais.
Ah oui, t'as une équipe, Flo.
J'ai une équipe.
T'es pas encore un vrai influenceur qui met sa petite perche là, tu sais.
Perche lumière. Ah, exactement.
je fais ça en famille.
Non, donc j'en profite, vous qui êtes des after infidèles, je ne fais aucune pub pour des cryptos.
Ah oui,
donc,
c'est vrai, j'ai vu ça.
Mon compte Twitter a été lamentablement piraté. Ouais. J'en appelle à Elon Musk. Elon, sauve-moi. Rends-moi mon compte.
Ouais. On va les signaler en masse.
Merci. Signaler ça, s'il vous plaît. Aidez-moi.
Donc le tweet où tu disais « Allez, messe », c'était pas toi, alors?
Non, j'ai cru que c'était N6E qui m'avait piraté mon compte. Mais non, c'est même pas lui. Bon, 2-2 entre Rennes et le PSG. 2-0 pour Lille à Angers, on va en parler un peu plus tard. 1-0 pour Monaco au Havre. Également à suivre dans l'after. Et puis il y a le Barça qui joue ce soir, hein, les gars. Elche, il y a 2-0 pour le Barça. On aura Edgar Grollo avec nous un peu plus tard pour nous dire ce qui s'est dit.
Il y a Arthur Fils qui fait sa finale de 14 000.
Et en plus,
contre Tiafo,
on a Arthur Fils. Je crois même qu'on suit le match, pour tout te dire. Face à Tiafo. C'est Antoine Brard qui suit le match. Oui. Est-ce qu'Antoine est là? Antoine est-il là? Non, il n'est pas là. Et Arthur, ça vient de démarrer. Un jeu à zéro pour Arthur Fils, donc on tient au courant.
C'est parfait, ce premier jeu.
Ah, Antoine est là?
Oui. Oui, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Ah, salut, bonsoir, salut à tous, salut les gars. Et oui, Arthur Fils qui mène 1-0 hein, dans ce match, ça vient de démarrer vraiment il y a 2 minutes. Un gros jeu de service, c'est lui qui servait en premier dans ce match. Et voilà, hein, ça peut être historique ce soir, lui qui dispute sa toute première finale en Masters 1000. Il a l'opportunité de briser 12 ans de malédiction. Ça fait 12 ans qu'un Français n'a pas remporté un Masters 1000. C'était Joe Wilfried Tsonga en 2014 à Toronto. À cette époque, Arthur Fils n'avait que 10 ans, hein, c'est dire la disette française. Mais voilà, donc il mène 1-0 dans ce match. Maintenant, place au service de Frances Tiafoe, l'Américain qui joue hein, devant son public à Cincinnati. Donc ça ne va pas forcément être évident pour Arthur Fils, mais on l'espère.
A tout à l'heure, tu le tiens au courant, bien sûr. Nous, on enchaîne avec la Ligue 1 et le PSG qui fait 2-2 à Rennes. Tout de suite, les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Walid.
Alors mon premier point, c'est le PSG de Ferran Torres, le PSG de Luis Enrique. J'aimerais bien parler de ça avec Flo Gautreau, parce qu'on a encore vu la décision d'un grand coach en sortant le ballon d'or et peut-être le futur ballon d'or à la mi-temps et être récompensé d'un 2-partout. Management incroyable de Luis Enrique. Mon deuxième point, c'est Rennes, le Rennes d'Esteban Le Poll. Je ne voulais pas parler d'équipe de France pour Esteban Le Poll, mais ça commence à devenir très sérieux. Il a envoyé sa candidature à Zizou avec une équipe rennaise sur la première mi-temps qui a vraiment fait des belles choses et avec avec un Esteban Lopol efficace et connecté au reste de son équipe. C'était sa marge de progression. Et mon troisième point, j'aurais pu parler de Lille face à Angers, mais je vais parler de Monaco qui finit sa belle semaine à l'extérieur avec plein de promesses sous Philippe et Louis.
Florent.
Bah, le premier point, c'est que c'est d'abord un nul équitable à mon avis quand même, et un bon point pour Rennes qui a pris le PSG à un bon moment dans la saison et qui s'en est bien sorti malgré tout. Le deuxième point, c'est que ce Rennes, justement, je voulais insister sur l'organisation et sur peut-être les promesses qu'il y a dans cette équipe-là, et notamment derrière, parce que c'était un peu l'inquiétude. Cresswell, Aït Boudlal ont été très très intéressants. Et puis le troisième point, je resterai sur le match ce soir, puisque de toute façon on va parler, je pense, un peu de Lille et Monaco, mais je resterai sur le PSG et cette histoire effectivement de sortie à la mi-temps de Dembélé. Moi je pense qu'il ne faut pas aligner des joueurs qui sont encore en vacances dans leur tête, et que c'est le cas de Dembélé, et que c'est un des sujets à mon avis importants de ce début de saison.
Bon, démarrons justement là-dessus, sur ce qu'a fait Luis Enrique. Walid en a fait son premier point. Coaching gagnant, et surtout, il n'y a pas de statut, quoi.
Au-delà du coaching, on a encore la confirmation que le big boss, c'est Luis Enrique. Mmh. Et quand tu as une première mi-temps où, clairement, devant Kvaratskhelia et Dembélé sont en dessous de tout, et que à la mi-temps, quand tu perds 2-0, tu fais rentrer Ferran Torres et Götze, les deux nouvelles recrues. Je ne vais pas dire en s'abordant un petit peu la deuxième mi-temps, mais en envoyant le message qu'en fait le plus important c'est pas le résultat, mais c'est de montrer que vous allez respecter tout le monde, et que si vous n'êtes pas à votre meilleur niveau, et ben vous sortez. C'est ce qu'a envoyé comme message Luis Enrique. Luis Enrique dit souvent c'est pas mes paroles les plus importants, c'est les actes. Et on a encore vu ce soir que dans son management il n'y avait pas de statut. Et puis si on peut élargir au milieu de terrain, Vitinha et João Neves sortent très très tôt dans le match. Beraldo termine la rencontre à la place de Vitinha, et le groupe a très très bien répondu avec une deuxième mi-temps qu'ils ont été chercher au mental, et même footballistiquement, avec des belles choses, et avec un Ferran Torres qui vient d'arriver et qui met un doublé. Donc qu'ils aient pris un point ou non contre Rennes, c'est pas le plus important pour le Paris Saint-Germain, mais la grosse information ce soir, c'est que Luis Enrique fait encore passer des messages même après un back-to-back sur des tauliers qui lui ont fait gagner des trophées. Et ça, c'est quand même pour moi l'information du soir. Et c'est une très bonne chose pour le PSG.
Pour moi, il y a deux choses différentes dans ce qui s'est passé avec le PSG ce soir. C'est-à-dire qu'il y a le coup de griffe de Luis Enrique à la mi-temps. Là, t'as raison, c'est le management habituel. Mais ça, les joueurs le savent. C'est-à-dire qu'ils sont pas bons, quel que soit leur statut, ils sortent. Et puis il y a le cas Vitinha Neves qui montre aussi à quel point ce PSG n'est pas prêt physiquement. C'est différent. Ils sortent pas parce qu'ils sont sanctionnés. Ils sortent parce qu'ils ne peuvent pas faire le job jusqu'au bout. Donc je dirais que la sortie Vitinha Neves, elle est anticipée déjà dans l'esprit de Luis Enrique avant le match, en se disant je vais les sortir à un moment donné. Et je ferai rentrer mon Fabien Ruiz, que je ménage déjà un peu au début parce que lui a joué un peu plus longtemps en Coupe du Monde. Mais l'histoire de ce match, c'est pas tant ça, c'est plutôt effectivement, comme disait Walid, cette sortie sanction à la mi-temps, en disant non les gars, c'est pas possible, le PSG ne peut pas perdre deux matchs de suite. Et effectivement, je me suis dit un peu comme Walid, je me suis dit ouais, mais c'est vrai que ça va être compliqué quand même, parce que les gars ils ont pas les automatismes, ouais. Ils vont peut-être pas faire la diff, et que donc c'est un risque. Et comme quand Dembélé est arrivé en retard à la causerie Arsenal, Luis Enrique évidemment délivre un message, c'est-à-dire que tu as deux façons de faire. Tu as la façon de gagner ton match pour le championnat de Ligue 1, mais tu as aussi de gagner ton vestiaire pour la suite de la saison. Et ce soir, oui, il gagne son vestiaire. Il dit à Götze, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas peur, je te mets en... Bon, Ferran Torres c'est particulier, il est champion du monde. Mais même Mika Götze, il lui envoie un message en disant mais tu peux très bien prendre la place d'un des tauliers. Je dirais que c'est un peu plus dur pour... un peu plus surprenant pour Kvara ce qui s'est passé. Dembélé, ça m'étonne pas. On a vu des choses à l'entraînement aussi, des images où, en gros, Dembélé, t'as l'impression qu'il commence à cadrer ses frappes maintenant en janvier. C'est-à-dire qu'il cadre pas, tu sais, on retrouve le Dembélé
d'avant. C'est vrai qu'on a retrouvé, contre Lens aussi.
On retrouve le truc du Dembélé qui a les occasions sur un plateau, qui est un peu brouillon, qui est parfois un peu dilettante et qui n'est pas dans son match. Donc Dembélé commence sa saison plus tard, faut le savoir pour l'instant. Il était en vacances et je trouve que c'est une erreur là pour le coup.
Mais Kvara aussi était pas bon sur leur première mi-temps.
Ils ont pas été catastrophiques quand même. Non, mais même Dembélé, il faisait des différences.
Ouais,
la finition n'est pas bonne, mais moi je l'ai trouvé, il était souvent côté droit, il faisait des différences.
Manger par Aït Boudlal une fois, il a mis au-dessus.
Oui, moi, et puis moi, les frappes de. C'est vrai qu'il
n'est pas autant disponible, il n'est pas autant disponible que d'habitude.
arrosé, non, quoi.
La vraie déception, en revanche, c'est plutôt Kvara. Parce que Kvara, lui, n'a pas d'excuses sur la fatigue, sur la prépa. Et il a été plutôt très bon depuis que le PSG joue, là, depuis
les trois matchs
officiels. Ouais, tout à fait. Mais là, il a quand même, on sentait qu'il a du jus, qu'il a du gaz. Et il a commencé, t'as raison, Aurélien, plutôt bien. Il était là. Mais derrière, il a un truc, Kvara.
Ouais, mais c'était pas assez, ouais.
Doué un petit peu un truc comme ça aussi, c'est qu'il prend, moi je trouve qu'il prend trop la frappe. Il prend trop systématiquement la frappe, alors que le jeu du PSG réclame quand même la passe. Mais le mec qui illumine le truc quand même, et je pense au milieu de terrain là, c'est quand même Fabien Ruiz.
Pour revenir sur l'attaque à 3, parce que moi ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des statuts, les messages, etc., et moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'à 2-0, il se dit, quitte à perdre le match contre Rennes, je vais gagner mon vestiaire encore cette année sur le premier match. C'est pas très très grave, parce que perdre deux matchs contre Lens et contre Rennes, ok, on les perd, mais on va les perdre pour les bonnes raisons, avec la mentalité que je veux mettre en place. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que pour moi Désiré Doué est le plus dangereux sur la première mi-temps, et qu'il aurait pu, encore une fois, comme certains coachs, jouer au statut et sortir Doué, et non, il fait vraiment ces deux choix-là, parce que ça peut, parce que tu parlais d'Arsenal, Flo. Mais Arsenal, c'est pas le même Dembélé qu'aujourd'hui. Entre-temps, il est Ballon d'Or. Entre-temps, il a gagné deux Ligues des Champions. Et la même chose pour Kvaratskhelia, qui, là, lutte pour aller chercher le Ballon d'Or. Et ça, encore une fois, moi, je trouve que c'est pour moi l'information de la soirée. Mais après, en deuxième mi-temps, il est récompensé. En plus, Ferran Torres fait une superbe entrée. Fabien Ruiz, t'as raison. Et puis, je pense que Rennes, à un moment, avec la réduction du score, ils prennent un gros coup derrière la tête. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a gros choix. Et derrière, il y a réaction de l'équipe, et encore plus avec le joueur qu'il a voulu aller chercher pour remplacer Ramos, qui lui, dès ses premières minutes de jeu, met doublé. Donc aujourd'hui, c'est le grand gagnant, Luis Enrique, du soir.
Oui, alors, en dehors du management et du coaching, il y a aussi un choix gagnant du mercato. Parce que Ferran Torres, évidemment, tout le monde le connaît, mais de voir la capacité, quand tu es ici au stade, tous les appels, parce que tu regardes avant les actions, le nombre de fois où il propose quelque chose, que ce soit axial ou sur le côté, là tu te dis, tu as quelque chose, quelque part, que n'avait pas le Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos avait de grandes qualités, mais il n'avait pas toutes ses qualités.
La mobilité.
Et de mobilité. Donc en fait, c'est peut-être en dehors de toutes ces histoires qui vont finalement être un peu anecdotiques au fil des mois, de la gestion et du management, puisque tout le monde connaît un peu ce que fait Luis Enrique. Là, on voit un PSG qui s'améliore sans doute dans la
Il fait une entrée world class, Ferran Torres.
Et ce qui est ultra positif, c'est qu'on voyait que Götze, Akliouche, bon, moi j'ai trouvé vraiment en dessous des autres, ne s'entendaient pas du tout. Et moi, j'avais peur pour les Parisiens que ce soit des mauvais choix de faire entrer autant de joueurs en seconde période, parce que moi, je trouvais que c'était, moi, je vous trouve dur avec Dembélé et Kvaratskhelia. Je trouvais que le PSG était meilleur presque en première période que sur les 20 premières de la seconde période. Heureusement que Torres est efficace quand même.
Oui, mais je suis d'accord sur Emile Akliouche. Mais je vais te dire un truc. Je pense que là où ça a énervé Luis Enrique, c'est que Doué, qui est très bon, mais très fatigué à la fin, très fatigué, et donc il a sans doute prévu de le faire sortir à la 80e et de mettre Götze sur le côté à la place de Doué. Mais en fait, ça bouleverse ses plans, puisqu'il sort avant finalement Kvara. Il s'attendait pas à ce que Kvara le déçoive à ce point, et donc il fait ce choix là. Mais effectivement, en deuxième période, c'est un peu un all-in, parce qu'il n'y a pas d'automatisme. T'as raison, il y a plein de moments où il n'y a pas d'automatisme, mais celui qui s'en sort le mieux pour être un nouveau joueur, en dehors de Ferran Torres, qui est un joueur world class quand même, et qui l'a montré là, c'est Götze. Parce que Götze arrive à s'intégrer, à comprendre, à faire des différences, alors qu'il n'est pas là depuis très longtemps. Donc, ce qui est intéressant ce soir, et ce qui est dingue, et ce qui est logique pour Rennes aussi, c'est que je me suis dit à un moment donné, j'ai dit, ok, t'as Domar Colino, j'ai noté les entrées rennaises, t'as Merlin, Domar Colino, Nordin, Reynolds, et puis de l'autre côté, t'as Ferran Torres, Akliouche et Fabien Ruiz.
Ah oui, c'est pas pareil. Non,
mais tu vois, sachant que Barcola et Mbaye ne sont pas là.
Oui, mais Aurélien, pour revenir toi sur ta comparaison entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, moi je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi je vais te dire, entre le 1 et le 2-0, le Paris Saint-Germain doit revenir au score, et je trouve que Rennes optimise. Rennes optimise sa première mi-temps avec un but incroyable de
Le tir cadré et deux buts.
Voilà, bien évidemment. De toute façon, globalement, quand tu fais ces ces performances-là avec le PSG, t'optimises souvent, comme Lens a optimisé il y a 10 jours. Le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, je pense que quand il fait ces changements-là, il se fout de ce qui va se passer en deuxième mi-temps.
Ouais, je suis d'accord.
Footballistiquement. C'est ça, en fait. Pour moi, le message est tellement fort parce que, et quand toi tu dis, oui, Dembélé et Gvara, ça n'a pas été dégueu. Mais bien évidemment, c'est des joueurs hors du commun. Donc, en fait, le Gvara ou Dembélé en dessous, pour le commun des mortels, ça reste au-dessus. C'est pas des performances ignobles. Sauf que pour lui, dans l'intensité, dans la connexion, dans ce qu'il recherche, il est dans cette surexigence, même sur un match contre Rennes, et il se dit, les gars, vous voulez pas jouer comme j'ai envie, ou vous voulez pas avoir l'intensité que je demande, après une défaite contre Lens à 11 contre 10, hein, faut le rappeler, parce que c'est quand même un malus, à 11 contre 10 à Lens, et ben, vous sortez du terrain, et quoi qu'il arrive, je répète cette phrase, quoi qu'il arrive, même si on perd le match, je récupérerai mon vestiaire, ou j'enverrai le message à mes nouvelles recrues, parce que il y a une fraîcheur de recrues cette saison, contrairement à l'année dernière, donc je dois renvoyer un message. Donc c'est vrai que moi, t'as raison sur le premier mi-temps, le deuxième mi-temps, mais malgré ça, sur la fin de match, tu vas chercher un 2 partout avec l'entrée de Fabien Ruiz, je suis d'accord, et surtout avec un Ferran Torres qui envoie sa carte de visite à la Ligue 1.
Ce qui est paradoxal, effectivement, et là Aurélien a raison, c'est que j'étais en train de me dire, avant qu'il y ait ce but, le premier, qui est vraiment important, de Ferran Torres, c'était pas le meilleur moment du PSG, c'était un moment où tout était téléphoné, et c'est là que je me suis dit aussi, et c'était logique, bah, les mecs n'ont pas les automatismes qu'avaient les anciens, donc les nouveaux s'intercalent un peu moins, c'était assez logique, mais finalement un peu téléphoné, et à ce moment-là c'est presque une fausse action. Et oui. dans un match, c'est-à-dire que j'ai vu Ferran Torres dire à Fabien Ruiz, mets la main au-dessus, tiens, un peu à l'ancienne, l'autre lui a mis le truc et hop, les Rennais se sont retrouvés à 1-2 à 2-1, alors qu'ils étaient un peu tranquilles en train de gérer.
Moi, j'avais la sensation de gestion des temps de jeu, un peu comme la saison dernière, mais différemment, puisqu'on faisait jouer les jeunes au début de saison, il n'y a pas eu la Coupe du Monde des clubs. Et là, Luis Enrique, il s'est dit, effectivement, on s'en fout du résultat. Et quand il fait rentrer, bon, Beraldo à la fin, mais même juste avant le deuxième but, il y a Ruiz, et j'oublie l'identité du quatrième entrant, quand tu fais sortir Zaïre Emery et João Neves, il y avait 2-0 à ce moment-là pour Rennes, et ça marchait pas, voilà, à Cliouche. Et ça marchait pas avec Götze et Ferran Torres, ça ne marchait pas. Désiré Doué, il perdait beaucoup de ballons, et là tu t'es dit, Luis Enrique, il veut voir tout le monde, il veut voir ce qu'ils sont capables de faire, et finalement le résultat c'est secondaire, parce qu'il sait probablement que, comme la saison dernière, le Paris Saint-Germain va mettre la machine en route et ça va revenir tranquillement. Donc
moi je pense que t'as gagné beaucoup de choses ce soir. Moi ce soir t'as gagné beaucoup de choses.
Moi, c'est clair. On voit le public, là, ils sont en feu.
T'as l'entrée de Ferran Torres qui est gagnante, qui est très importante, comme l'a dit Flo. En plus, il met un but à la Gonzalo Ramos et il termine le match au poste d'ailier à côté d'Hakimi. Donc, beaucoup de mouvements et une palette beaucoup plus globale. Surtout qu'on sait très bien l'affinité qu'ils ont les deux. Moi, je reste persuadé que Ferran Torres va énormément jouer cette saison et qu'il envoie un message ce soir. Et que surtout, dans la globalité, dans ce que veut demander Luis Enrique, je suis persuadé qu'il va vouloir plus d'exigences que l'année dernière pour aller chercher cette troisième Ligue des Champions, et que il était très énervé du résultat à la mi-temps, parce que perdre deux fois de suite contre Rennes et contre Lens, aux yeux de Luis Enrique, peut-être pour nous les observateurs ou les supporters, à partir du moment où t'as gagné deux Ligues des Champions, c'est plus très grave, en tout cas c'est moins grave, mais pour Luis Enrique, il rappelle l'exigence à ce club-là.
Dans un instant, on va accueillir Foussénou au 32-16. On va continuer d'évoquer les choix de Luis Enrique. On va parler de Ferran Torres et puis on va parler de Dembélé un peu plus avant quand même, parce que on est toujours en période de mercato. Dembélé, où est-ce qu'il a la tête en vérité?
Qu'est-ce qui va se passer?
Je vous mets tout ça sur la table. On verra ce que vous en pensez. Et puis Rennes, bien sûr, dans le détail dans quelques minutes, l'évaluation complète, sans oublier les autres matchs du soir. Tiens, en Italie, il y avait un match ce soir également. Milan est allé gagner sur la pelouse du Torino 2-1. En Espagne, toujours 2-0 pour le Barça. Et puis Arthur Fils démarre bien son match face à Tiafo à Cincinnati en finale. Arthur.
Oui, il mène actuellement 4-1 dans ce premier set de cette finale du Masters 1000 de Cincinnati. Il a fait une superbe entame, hein, il a breaké directement à 2-0. Il menait 3-0, Tiafo est revenu 3-1. Mais en fait,
c'est bien fait,
un super jeu de service avec déjà 5 ace dans ce match. Et donc, Arthur Fils mène tranquillement 4-1 et 30-0 sur le service de Tiafo à l'instant. Voilà, donc c'est bien parti dans ce premier set où on l'espère, Arthur Fils ira chercher le premier Masters 1000 de sa carrière.
4-1, merci Arthur. Si une balle de 7, tu nous rappelles, bien sûr, on suit ce match jusqu'à minuit. À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h01, Walid Acherchour est là au stade Arène. Florent Gautreau et Aurélien Tirsin sont là également. On continue notre analyse de Rennes PSG. Évidemment, on aura un peu plus tard les conférences de presse de Luis Enrique, de Francaise. Là, ce soir, c'est sûr que Luis Enrique, on l'attend. On espère qu'on lui posera les bonnes questions dans la conférence de presse.
Exactement.
Pour l'instant, on a Foussénou au 32-16 qui est là. Salut Foussénou.
Salut Gilbert, salut Walid, salut Florent, salut Aurélien.
Est-ce que toi aussi tu te dis, quitte à perdre, ce qu'a fait Luis Enrique, c'est bien en termes de signal et en termes de gestion de son groupe?
Bien sûr, c'est parfaitement bien. Ça veut dire qu'il envoie un message au cadre, malgré qu'ils ont gagné la Ligue des Champions deux fois. Voilà, il n'y a pas, faut pas se reposer sur ses lauriers, quoi. Donc moi, personnellement, ce qu'il a fait, c'est pas mal, c'est parfait. Maintenant, faut pas oublier qu'Ousmane Dembélé aussi, il a eu la Coupe du Monde. Donc, le temps qu'il revienne à son niveau, ça va prendre un petit peu de temps. Parce que là, c'est comme des matchs de prépa. Sans manquer de respect au Stade Rennais, qui a fait un grand, grand match, bien sûr. Mais ils sont toujours en préparation, les Parisiens. Donc, ils ont pas eu assez de vacances. Là, la saison a repris très tôt avec la Super Coupe d'Europe, le Trophée des Champions. Donc, voilà. Faut laisser un peu le temps que les automatismes arrivent. Enfin, le rythme des matchs, bien sûr. Mais malgré ça, je trouve que le match, il était magnifique. Franchement, beaucoup
c'est vrai que pour un premier dimanche soir de Ligue 1, c'était pas mal. S'ils pouvaient être tous comme ça.
Bah oui, d'ailleurs les matchs décalés, on va dire, enfin les matchs qui ont concerné les plus belles affiches, ont été pas mal. On était plutôt de bons matchs. Après, évidemment, on a eu des matchs moins bons, mais voilà, il y a de tout. On a bien compris que le multiplex du samedi soir serait peut-être moins bon.
Mais en revanche, très compliqué hier.
Tout à fait. Mais en revanche, si tu prends les matchs un petit peu qui sortaient de l'ordinaire et qui avaient été vendus comme tels, ils sont pas décevants. On peut pas dire que ce soit décevant.
Oui, même le PSG là. Lens, Auxerre, Monaco, Le Havre et ce soir, ouais, bien.
Oui, et il y a eu des bonnes choses. Et tu vois, dans ce que disait Luis Enrique dans l'avant-match, je suis assez d'accord avec son analyse. Et en regardant les matchs, même s'il y a plein d'imperfections, il y a des niveaux de physique différents, il disait qu'ils étaient plus forts que l'an dernier à la même époque. Moi, je le pense aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que la perf de Rennes, elle était intéressante. Parce qu'on n'a pas un PSG bis. On a un PSG quasiment A. On a un PSG effectivement un tout petit peu encore en recherche de physique à 100%. Mais c'est quand même un PSG qui, comme l'a dit Luis Enrique, est meilleur à ce moment de la saison que l'an dernier. Et que Rennes a su malmener, même s'il y a eu beaucoup d'efficacité dans la première période. Donc il y a quand même plein de choses. Et là où Walid a raison sur le fameux management de Luis Enrique. En fait, ce début de saison lui permet tout de suite de mettre les doigts dans la prise. C'est-à-dire que là, tu t'es parti, tu n'as pas le temps de tergiverser. Lejbon joue, Dembélé sort. J'ai du très bon sur le banc. On a effectivement une stratégie un peu différente cette année avec les recrues. Donc on peut se permettre de tourner. Et moi, je dirais que pour aller sur le débat Dembélé, puisque Gilbert, tu voulais y aller.
Oui.
C'est vrai que Dembélé, ce poste de neuf. C'est pas la même chose que l'an dernier où en gros tu n'as qu'un vraiment un réserviste de luxe en la personne de Gonzalo Ramos. Là, tu as un mec, Ferran Torres, qui peut jouer à sa place.
C'est déjà on met qui au prochain match?
Le message est lancé.
Ferran Torres. Enfin, je sais pas le logique sportive.
Après aujourd'hui, c'est pas avec une mauvaise première mi-temps ou une première mi-temps moyenne.
Ferran Torres, il a eu plus de coupes du monde.
Il a pas joué autant que Ousmane Dembélé.
Non, mais ce que je veux te dire, Walid, c'est que un Dembélé. Je dis pas que t'es pas challengé à tout moment au PSG et même Dembélé l'été parce que le coach de toute façon l'a aussi challengé depuis qu'il est arrivé. Mais là, il a encore mieux pour les challenger. Il a pas seulement le fait de le sortir parce que quand tu le sortais parfois, tu savais que quand même ça allait être moins bon. Là, il va le remplacer par un neuf, un buteur plus buteur et un mec qui a l'habitude de ce niveau de
après attention
de
Flo, moi Ferran Torres je l'ai beaucoup vu au Barça, tu t'arraches les cheveux Ferran Torres, il est capable aussi de beaucoup vendanger, il a beaucoup de mouvement, il a beaucoup de générosité, mais
je te parle pas de, je te dis pas que Ferran Torres va prendre la place d'Embélé, je te dis que c'est pour un coach, il a une arme.
Oui maintenant là où t'as raison c'est que on sait très bien que Luis Enrique il rentre dans une troisième saison, enfin une quatrième quatrième, mais avec cette possibilité d'aller chercher ce tripit à la suite en Ligue des Champions, et que il aime énormément Ferran Torres. On l'a déjà expliqué, ils ont une histoire particulière, ils sont très très proches, et qu'il aime beaucoup le joueur déjà même à l'époque.
Son ex-gendre.
Voilà, son ex-gendre. Déjà même à l'époque avec l'Espagne, il le faisait jouer énormément au poste de faux numéro 9. Ça faisait partie de sa belle période à Ferran Torres. C'est là où véritablement, il, même quand il était remplaçant à Sissi, il jouait titulaire avec l'Espagne, avec Lucien Riquet, donc il a une vraie cote de sympathie pour lui. Donc attention, Dembélé là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, Ousmane Dembélé, s'il est à 100%, il sera titulaire avec le Paris Saint-Germain. Et là où moi j'étais déçu ce soir de Ousmane Dembélé, comme contre Lens, c'est que dans le contenu, alors peut-être qu'il a pas les cannes et qu'il a pas encore les jambes, c'est que même dans la disponibilité, dans les zones mortes, comme il peut le faire, il l'a pas assez fait, je trouve. Au-delà de Vendanger, la grosse occasion comme celle de Lens, qui aurait pu changer le match. En plus, elle arrive juste avant le 2-0, donc véritablement, il avait un impact sur le score. Mais moi, Ousmane Dembélé, t'en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il va partir, etc. Si Dembélé devait partir, ou s'il avait des envies de partir, il serait parti en fin de saison. C'est pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Et donc moi, je peux pas imaginer qu'Ousmane Dembélé parte du Paris Saint-Germain. Maintenant, oui, il a peut-être un concurrent plus sérieux avec un coach qui aime beaucoup ce joueur-là. Il faudra qu'il lance sa saison peut-être un peu plus tôt que l'année dernière ou l'année d'avant.
Je pense que en fait, Dembélé a besoin d'être challengé, d'être challengé en permanence. Luis Enrique a besoin de, tu sais, c'est comme quand tu veux faire bouillir l'eau comme il faut, de la mettre à bonne température. Il sait que trop peu ça va pas, trop ça va pas non plus. Et donc Dembélé, il le gère et il veut le gérer en lui disant, moi je te lâcherai pas. C'est-à-dire que tu vois, si t'es pas à ce niveau-là, si t'es pas au niveau suffisant, si tu mets pas l'intensité, si tu fais pas les retours, ou si t'es pas dans le rythme, ou si t'es pas assez adroit, eh ben, je trouverai un moyen de te challenger, même quel que soit son statut, comme disait Wally, mais aussi quel que soit l'ambition et la saison à venir. Et donc, je pense que l'intérêt de cette saison, effectivement, c'est finalement dans ce nouveau banc de touche que moi j'appelais, je reconnais, j'ai déjà fait mon mea culpa là-dessus, que j'appelais de mes voeux à l'intersaison dernière, il y a un an, et je pensais que ça n'irait pas au bout sans un peu plus de recrues. Bon, bah, je me suis trompé, ils ont gagné une deuxième Ligue des Champions. Mais moi, je suis très content et satisfait de voir que tous les joueurs du 11 titulaire vont être challengés, parce que quand tu vois le banc, enfin, même si
c'est peut-être une force aussi d'avoir un 11 vraiment installé titulaire, qui est pas forcément, qui peut changer après 3-4 matchs ratés. Ça peut l'agacer si ça recommence pendant 6 mois aussi.
Et puis, à la différence de l'an dernier, sur le Dembélé Ferran Torres, même si moi, encore une fois, je reste persuadé, Dembélé fera sa saison au poste de numéro 9, c'est que Ramos n'était pas une option crédible pour Luis Enrique dans les gros matchs.
C'est ce que je te disais tout à l'heure.
Parce qu'il n'avait pas le profil Luis Enrique. Et là, c'est son choix. C'est-à-dire que c'est un joueur profilé, Luis Enrique, profilé Espagne, de Luis de la Fuente. Et ça, c'est vrai que ça peut changer la donne, mais ça dépendra uniquement d'Ousmane Dembélé pour moi. Quel Ousmane Dembélé tu as?
Alors, attends, j'aimerais que Fousselou donne son avis là sur Dembélé. Est-ce que, du coup, toi, tu te dis, c'est bien, il va devoir se bouger un peu plus? Est-ce que ça t'inquiète un peu pour lui? Quel est ton avis?
Bah alors non, moi je suis pas inquiet, parce que Ousmane, il a toujours montré un état d'esprit irréprochable, enfin depuis un moment. Il est très motivé, il est même à l'équipe de France, on a vu que c'est lui qui boostait les gars pour aller faire le pressing. Donc non, moi je m'inquiète pas pour Ousmane. J'attends quelques semaines, il va se remettre au niveau, surtout que là, il y a son concurrent entre guillemets direct, Ferran, qui vient de marquer un doublé. Donc forcément, c'est un champion, c'est un ballon d'or dans sa tête, il doit se dire, ah bah tiens, là il y aura du costaud cette saison. Donc à mon moi j'ai pas de franchement, je m'inquiète pas pour
Ousmane. Une bonne nouvelle pour le club, c'est une émulation.
Voilà, c'est exactement. Mais pour revenir juste sur un joueur, si je peux me permettre, pour Gvara, bon, lui, on le sait que c'est que en Champions League, en général, il monte le curseur.
Mais Gvara, il a zéro excuse, en fait, là, sur parce que lui, il n'est pas à la Coupe du Monde.
Ouais, exactement.
Il a fait toute la prépa.
T'as raison.
Il est censé être.
Et ses deux derniers matchs sont pas au niveau de Gvara.
Le problème de Gvara, c'est qu'il a tellement faim de jeu et de match que je le regardais au début. En fait, je te dis, il veut tout prendre. Il veut manger un peu tout. Il veut faire la diff. Il veut tirer. Alors, il est remarquable. On sait qu'il peut faire la diff. Et il aurait pu la faire ce soir, il n'a pas été mauvais au début, mais tu vois, cet équilibre entre je donne, je passe. Là, en ce moment, là, il a tellement fin de ballon, tellement fin de jeu, tellement fin de
Il n'a pas fin de ballon d'or aussi.
Peut-être. Non, mais après, il est jamais meilleur que quand il y a de l'espace. En Ligue des Champions, il court de loin. Là, dans les tout petits espaces, effectivement, à la Kvara, crochet extérieur, il veut frapper. Et là, il y a pas d'espace. Il s'est mangé le mur rennais en permanence.
Et très bonne défense, parce que je regardais la fameuse frappe qui est jamais partie d'ailleurs, parce qu'ils l'ont emmené. Il a porté le ballon très longtemps, parce qu'ils ont aussi très bien défendu. C'est aussi, je pense, en ce moment, là, c'est un tapine, mais il faut quand même le dire, c'est quand même le meilleur moment pour prendre le PSG malgré tout, parce que défensivement et physiquement tu arrives quand même à les contrer. Ils ont réussi même sur Doué, ils ont réussi parfois sur Kvara, ils ont réussi sur Dembélé. Quand les mecs sont trois mois un peu plus en forme après trois mois de compète, déjà c'est un peu plus compliqué. Donc même si c'était l'inversion à jouer aussi, tu joues hors la zone, c'est pas pareil que de jouer au parc, mais néanmoins il faut reconnaître que le PSG était mieux à prendre, même si ce PSG-là n'était pas du tout.
Parce qu'on parle des joueurs de devant, mais au milieu de terrain, moi j'ai trouvé que c'était Warren Zaïre-Emery le plus fringant en première mi-temps.
On va pas trop vite. J'aimerais juste qu'on finisse sur Kvaratskhelia avec Fousseinou, parce qu'il n'a pas pu aller au bout, Fousseinou, au final, sur Kvara. Vas-y.
Oui, non, parce que j'ai remarqué Kvara en Ligue 1, il a souvent du mal à faire des gros matchs. D'accord, c'est souvent en Coupe d'Europe où j'ai l'impression, dès qu'il entend la musique, là, il se transforme. Donc moi je pense que le fait que Lucien Riquet le sort à la mi-temps, ça va lui remettre, il aura une remise en question. Il va se dire, bon, là, il sait que cette saison, il va falloir qu'il brille aussi en championnat et qu'il montre des choses, quoi. Et pas que en Ligue des Champions. Surtout que, à mon avis, il y a un ballon d'or. Et voilà, il se dit que le mois d'octobre, il aimerait bien décrocher ce ballon d'or. Les votes ne sont pas terminés. Donc, il faut qu'il se donne à fond. Et moi, je pense que ce que Lucien Riquet, je pensais pas qu'il allait faire, honnêtement. Mais là, franchement, ce qu'il a fait,
Fousseinou, je te coupe parce que Lucien Riquet s'installe en conférence de presse. Alors juste avant, Arthur Fils gagne le premier set face à Tiafoe. Arthur.
Oui, 6-3 dans ce premier set pour Arthur Fils, qui n'est donc plus qu'à un seul set de rentrer dans l'histoire et de devenir le cinquième français à remporter un Masters 1000. Il a fini fort, hein, 3 aces pour finir le set. Voilà, il est très très bien parti, très serein, une petite demi-heure, et il a déjà remporté ce premier set dans cette finale du Masters 1000 de Cincinnati.
Excuse-moi Antoine de t'avoir appelé Arthur. Luis Enrique, c'est parti en direct.
Et Fabien, et je suis spécialement content pour tous les joueurs qui sont rentrés dans un match très difficile, parce que les premiers mi-temps, on a eu beaucoup de difficultés à contrôler Rennes. Ils ont créé des contre-attaques, ils ont fait des buts merveilleux, et ça a été compliqué. Mais je me répète, pour moi c'est important de voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les banques et qui ne sont dans la fouille des matchs et qui sont prêts.
Justement, coach, vous parlez un peu des absents, vous avez parlé de ça hier. Aujourd'hui, il y avait quelques absents. On suppose que les places sont plus chères cette année au Paris Saint-Germain pour être dans le groupe, pour être dans le 11 de départ par rapport à l'an passé.
C'est clair. Ce qu'on cherche tout le temps à trouver les meilleurs joueurs pour être dans chaque match. Et c'est plus difficile que l'année dernière, c'est ça notre ambition. Et je pense qu'on a fait un très bon mercato et encore ouvert à des différentes possibilités. Et je pense que c'est... En général, tout le monde sait la difficulté qu'une équipe a à gagner, à continuer à gagner, et c'est clair qu'on a besoin d'améliorer.
Voilà, Lucien Riquet en conférence de presse en direct. Bonsoir Louis, ici. Une petite question sur Dembélé et Kvara, merci.
Dans ce match, on a parfois eu l'impression que le PSG avait du mal à être tranchant, à être réaliste, un peu comme à Lens la semaine dernière. Est-ce que vous voyez un lien ou pas du tout?
Non, pas du tout. Pour moi, le match à Lens, ça a été très différent. Ça a été un bon match aujourd'hui, non? Le rythme est des efforts. Il y a une très grosse différence. Et pour jouer à football, et spécialement à l'extérieur, dans cette Ligue A, il faut être plus attentif, il faut être plus près, parce que sinon, c'est facile à perdre des points. Et c'est la première journée. Mais il faut encore améliorer toute l'équipe et tous les joueurs. Et aujourd'hui, c'est un test très clair de ce que tu peux avoir des offérances si tu n'es à les niveaux.
Allez, encore une question à Lucien Riquet.
Comme face à Lens, le PSG s'est fait piéger sur une transition deux fois ce soir. Est-ce que c'est un axe qu'il faudra rectifier, mieux anticiper les transitions?
Ça a été l'un de notre force, tous les trois dernières saisons. Être attentif à ça. Ça dépend, je pense, de l'état physique de les joueurs. Et nous cherchons à avoir de la mobilité tout le temps. Mais il y a des positions dont tu dois être sûr que ta position est couverte pour un autre joueur. Si tu es un petit peu distrait, tu peux avoir des problèmes. Aujourd'hui, je pense que les contre-attaques, ce n'est pas cet problème seulement, sinon la qualité, la vitesse des joueurs attaquants de Rennes. Ils ont fait beaucoup de dangers et ça a été difficile à contrôler.
Bon, on va écouter la question qui vient là, pour savoir si on reste ou pas. Une question sur le coaching, messieurs, s'il vous plaît, merci.
Particulièrement énervé ou agacé parfois au bord de la touche, pourquoi?
Bon, allez, on attend, on écoute en coulisses. Si jamais il y a une question sur le coaching et la sortie de Dembélé et Gvara, on vous relaie, bien sûr. On se retrouve tout de suite.
C'est intéressant, Gilbert.
De quoi?
Non, juste sur Luis Enrique, c'est intéressant. Ah,
attends, on fait une pause et derrière, on dit ce qu'on en a pensé de cette intervention. Il est 23h17. On revient avec le Barça, toujours qui mène face à Elche. 5-0 désormais à l'extérieur. 1-7-0 pour Fils face à Tiafo. La conf de Luis Enrique a débriefé. Tout sur Rennes à venir. Bref, on a un after encore chargé jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
23h18, Walid Acher, Chourella, Florent Gautreau, Aurélien Tirsain au stade. On enchaîne avec Francaise tout de suite. On reparle à Luis Enrique ensuite. Mais là, Francaise vient de s'asseoir. Donc écoutons le début de sa conférence de presse.
35 minutes de passé. Je regarde d'abord la globalité du match et le contenu du match parce qu'il faut essayer de l'analyser comme ça même si c'est pas toujours facile à chaud et ce qu'on voulait faire, on a réussi un certain nombre de choses. Voilà. Après évidemment récemment je parlais de notre manque de rigueur sur certaines situations, surtout face à ce type d'adversaire. Dès que vous lâchez une gestion de profondeur, dès que vous lâchez ou vous n'êtes pas parfaitement en marquage ou vous ne cadrez pas suffisamment le centreur, avec ces joueurs-là, de ce niveau-là, vous pouvez vous mettre en difficulté. C'est ce qui s'est produit, mais je dirais que dans la globalité, je pense qu'on a quand même fait un gros match. On a même eu la balle du 3-2, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Je pensais moi d'ailleurs qu'elle était dedans, je n'avais pas vu Pacho revenir, donc voilà, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs ce soir.
Tu avais demandé aussi de l'intensité, que tu n'avais pas vu sur le dernier match de préparation, d'ailleurs on en a eu un peu quand même.
Ouais, mais c'est parce qu'on a été aussi mieux organisé, je pense. Parce que l'intensité, si vous êtes à 5 mètres, vous mettez de l'intensité, mais quand vous êtes toujours à 5 mètres ou à 10 mètres, là on était quand même beaucoup plus... En tout cas une bonne partie du match, beaucoup plus compact, avec en fermant bien l'intérieur, en isolant leurs joueurs de percussion, de couloir, en essayant en tout cas. Et je pense que c'est ça qui a permis aussi. Voilà. Puis après, il y a eu de l'intensité et aussi de la justesse sur certaines transitions offensives. Contre Paris, on se doute quand même qu'on ne va pas être en attaque placée tout le match. Donc il faut aussi avoir cette justesse. Puis après, il y a eu des sorties aussi intéressantes, mais c'est pour ça que je répète, parce qu'il y a plein d'éléments positifs dans le match de ce soir. Le seul, peut-être, c'est de ne pas l'avoir gagné.
Sur le plan technique, on a vu aussi par exemple Esteban De Paul qui a gardé beaucoup de ballons. On a l'impression qu'il a déjà passé un quart. C'est peut-être là où il pouvait progresser dans le jeu sous pression. Il a fait plutôt un match solide là, ce soir.
Ouais, alors je suis exigeant parce que je pense qu'il aurait pu en améliorer encore quelques-unes. Même si c'est vrai, mais je pense qu'il y a encore quelques-unes qui peuvent encore rester.
Alors voilà pour Francaise. Là aussi, on va revenir sur Rennes dans quelques instants. Alors, juste pour les précisions, à Ligue 1 Plus, Luis Enrique a parlé du coaching.
Oui, ils ont posé la question sur Ousmane Dembélé, parce qu'il n'y a pas eu de question pendant la conférence de presse. Et il dit, le football, c'est comme ça, le PSG n'a rien gagné, rien, il n'y a pas de crédit au PSG. Si tu penses à ce que tu as gagné, tu ne gagneras plus rien. Tu dois montrer chaque jour, chaque match que tu es prêt. On doit gagner tout le temps, et pour gagner tout le temps, tu dois sortir de ta zone de confort.
Ah, donc il y a un message là.
Ah oui, mais là, de toute façon, on l'avait senti. Je sais pas ce qu'en pense Flo, mais on l'avait senti déjà dans la conférence de presse, et même dans ses choix. Mais on a le Luis Enrique Dark. Hein. Là, on a le retour du Luis Enrique Dark, hein, je trouve.
Ouais, mais on a surtout le Luis Enrique qui, effectivement, fait passer des messages. Il va pas te dire il va pas te citer Dembélé et Gvara, il va pas les mettre en bouc émissaire, mais il va dire non, c'est pas le même match qu'à Lens, parce que là on n'a pas été bon. Donc quand on n'a pas été bon, c'est la première mi-temps. Deux, il parle mercato et banc. C'est rare qu'il dise autant, tu vois. Le mercato a été bon, il parle des recrues, il parle du banc, il a dit le banc, donc c'était le banc. La fouille de match, c'était la feuille de match. Non mais trêve de plaisante, trêve de fouille.
Il progresse en français en plus.
Il est à l'aise. Non mais je me moque pas. Non mais en revanche, c'est vrai que c'est intéressant de voir que tu regardes où va son regard. Là, il a dit à tous les titulaires, j'ai parlé du mercato, j'ai parlé du banc de touche, tu vois, il aurait pu ne pas le faire. Et effectivement, comme dit Walid, c'est un message, mais je dirais pas dark. Apparemment, il est revenu, tu sais, on a dit qu'il a pris, je sais plus combien de semaines de vacances, il est revenu comme une balle, apparemment, à Poissy, tu sais, avec un message ultra ambitieux, ultra, enfin, tu vois, le mec, il est à 400 dès la première journée. Donc là, si tu veux, lui, il perd pas de temps. C'est vrai que on a vu tellement de coachs qui attendaient avant de sortir les mecs, qui faisaient leur changement.
Il y a beaucoup de coachs qui auraient pu faire de la calinothérapie. Moi, je suis content de ça. Hein. Moi, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Mais après un deuxième sacre, très peu de vacances après la Coupe du Monde. Voilà, ça reste un match contre Rennes. J'ai confiance. En fait, il y a deux modèles de management. Et là, je trouve que quand je dis dark, c'est pas péjoratif, mais c'est le Luis Enrique exigeant. Parce que si nous, même les observateurs, on était aussi critiques que Luis Enrique, par exemple, sur ces joueurs-là, on se serait fait dézinguer par tout le monde. Ah, comment vous pouvez dire ça? Le PSG, lui, endosse ce rôle-là. Et moi, je reste persuadé, c'est un sentiment que ce deuxième sacre pour Luis Enrique lui a donné encore plus de responsabilité dans ce club et beaucoup plus.
Et de légitimité pour faire ça.
Beaucoup plus de légitimité pour faire ça. Et qu'aujourd'hui, il va encore prendre encore plus de place, même dans sa communication et en ayant plus d'exigence. Parce qu'il doit faire passer des messages. Lui, je pense, c'est Luis Enrique, qu'il veut rester encore longtemps au Paris Saint-Germain et qu'il y a peut-être un PSG 2.0 qui est en train d'arriver. Peut-être que Dembélé, c'est sa dernière, je ne sais pas. En tout cas, lui, il doit continuer à donner cette direction.
Mais le génie de Luis Enrique, c'est aussi que sur les petites vidéos inside, on le voit justement faire de la calinothérapie. Il fait des petites blagues, il est assez rassembleur, paternel avec les joueurs, donc il peut se permettre de leur taper sur les doigts avec la légitimité qu'il a acquise, celle du meilleur entraîneur peut-être actuel. On parle souvent de comparaison avec Pep Guardiola, mais seul lui peut-être peut se permettre aujourd'hui de faire sortir un ballon d'or, et ça fera pas plus de vagues que ça.
Et après, c'est vrai que sur la façon dont il fonctionne, là par exemple dans le match de ce soir, mais même en règle générale, regarde bien, on parle beaucoup là de Gvara, Dembélé parce qu'ils sont sortis à la mi-temps, mais si tu regardes le début, la feuille de match, Lucas Digne versus Lucas Hernandez, Lucas Digne, moi j'ai trouvé très moyen sur ses centres dans le match contre Lens, il est sur le banc.
Mayulu hors groupe.
Donc si tu veux, il y a plein, si tu regardes ne serait-ce que la compo de départ, même à Cliouche, j'ai envie de te dire, à Cliouche, je peux prétendre être titulaire dans un match comme celui-là. Tu vois, après tout, sur les niveaux de forme, pour l'instant il n'est pas titulaire. Ça veut dire pour l'instant tu passes derrière ceux qui éventuellement sont même pas titulaires.
Et à Cliouche, j'étais sorti à la mi-temps d'un match, je crois, soit à Aston Villa, soit à Lens, où j'avais même trouvé ça un peu sévère. Je crois c'est Aston Villa, il sort. Tu peux même rajouter. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé de Ferran Torres, mais le grand gagnant c'est Fabian Ruiz. Et au milieu de terrain, il sort les deux Portugais. Voilà. Aujourd'hui, je pense que Luis Enrique tape du poing sur la table et il veut mettre les points sur les i sur son effectif en disant les gars, c'est très bien ce qu'on a.
Alors les gars, le temps passe. Il est déjà 23h24. On va reparler du PSG lors de l'évaluation. Mais là, ouvrons le dossier Rennais quand même. On a entendu un Francaise. Évidemment, il est un peu contrarié. Il menait 2-0. Il se dit c'est un gros coup battre le PSG. Il se fait rejoindre, il a la balle de 3-2, donc il est un peu énervé. Mais enfin, je pense qu'avec le recul, 2-2, il sera content quand même.
Elle est dingue cette balle de 3-2 au passage. Et au passage, d'ailleurs, juste quand même, et ça va permettre de parler de Rennes aussi, le petit regret, je ne dis pas que c'est facile, tu mènes 2-0 un peu miraculeusement en termes de stats, mais tu mènes 2-0 et c'est très bien. Tu tiens finalement le PSG, comme on l'a dit, et Aize est énervé parce que, comme je vous l'ai dit, sur cette petite balle au-dessus de la défense, c'est pas l'action la plus construite du PSG et ils se sont fait avoir là-dessus en vitesse, en loose day. Mais Rennes, dès qu'il y a eu 2-2, s'est remis un peu à attaquer et assez facilement à percer le PSG. Et moi, je pense que le seul regret de Rennes, c'est le fameux, maintenant on dit plus l'important c'est le deuxième, si on dit l'important c'est le troisième but. Alors évidemment, marquer 3 buts au PSG, ça paraît fou, mais ils avaient peut-être les moyens d'être un peu moins attentiste, en tout cas à 0-2. Voilà, c'est peut-être.
Et tu as parlé du banc de touche, et on les a vus physiquement tirer la langue en deuxième période. Issa Soumaré, c'est la déception de la soirée rennaise.
Tu m'avais dit,
les deux ailes avec Moussa Tamari et surtout Issa Soumaré.
Je me souviens que j'ai demandé à Walid, parce qu'il suit beaucoup Le Havre, j'avoue, j'avais pas vu tous les matchs de Soumaré, mais sur les stats, j'étais intéressé. Quand il est arrivé à Rennes, très grosse déception technique. Très gros déchet,
très frustrant.
Très mauvais match.
Mais Rennes, ils ont les moyens de marquer le troisième avant, parce que Najida, il a fait des progrès énormes quand même dans la conduite de balle, mais il panique quand il arrive dans les 16 derniers mètres. Rennes peut mener 3-0 s'ils sont aussi cliniques que sur leur contre mi-temps.
Soumaré, si tu t'arraches les cheveux avec Altamari, qui au passage a fait une très belle talonnade
tu vas t'arracher
les cheveux sur Soumaré.
Ah non, mais ça y est, c'est fait. Non, mais pour moi, c'est que techniquement, je dis pas que le gars va pas réussir des trucs dans la saison. Techniquement, il passe un cap de club. Je pense que techniquement, il n'a pas le niveau là du Stade Rennais qui veut jouer.
Ah, moi, j'étais surpris de le voir à Rennes. Mais après, c'est un joueur qui a des qualités.
Tu m'avais dit d'ailleurs.
Mais j'étais surpris. Après, je pense que comme il était libre.
Après, tu vois, quand tu vois le.
Tu sais qu'il y avait Lens dessus aussi.
Ouais, mais bon.
Ça veut dire que tu vois ce que c'est.
Il a des qualités.
Moi, là, tu vois, aujourd'hui, il y a son match. Après, je pense qu'il en fera des meilleurs. Mais il n'y a rien qui est allé dans ce match. Mais après, pour revenir sur le problème technique, dans tous les matchs qu'on a vus ce week-end, j'ai vu des entraîneurs ambitieux, tu vois, même avec les petites équipes. J'ai vu un très bon OCR, j'ai vu un bon Angers, etc. Sauf que les mecs, techniquement, ils n'ont pas finalement les effectifs à la hauteur de leurs ambitions. Et je te dirais presque, je ne veux pas dire que je souhaite des entraîneurs bloc bas et qui font rien, hein, mais c'est presque compliqué. On a réclamé ce genre d'entraîneur pour toutes les équipes. Mais la différence quand tu rencontres en face, quand tu as en face un Lille, quand tu as en face un Monaco, quand tu as en face un Paris, quand tu as en face, etc., un Lens, c'est trop compliqué. Qui plus est quand tu prends un rouge, alors là, je ne te dis pas. Mais tu vois, c'est un débat qu'on aura peut-être dans d'autres affaires.
Après, techniquement, moi, je trouve que sur la première mi-temps, Rennes, dans ce qu'ils ont eu à faire, ça a été quand même propre.
Non, mais je parlais de la deuxième et du banc de touche dont parlait Aurélien. C'est-à-dire que là, quand tu fais rentrer Merlin, c'est compliqué. Mais, tu vois, Najida a pris sa place, hein, faut quand même le dire au passage. Ouais. Merlin, c'est compliqué. Don Marcolino, c'est un jeune joueur, peu importe, mais je veux dire par là que le banc de touche, on a assez souligné, évidemment, le banc incroyable qui a rentré ce soir, les joueurs qui sont rentrés côté PSG, mais le banc de touche côté Rennais, c'est ça la clé de
ce match. Non, mais t'envoies quand même un message positif ce soir du côté de Rennes. Tu parlais de la défense centrale, Boudlal, Creswell, ça va être solide, Samba, très bon gardien.
Avec Boudlal, c'est pas sûr qu'il reste.
Oui, enfin, s'il reste.
Arnaud Pouille nous a dit que ça faisait normalement partie des intransférables avec Samba et Esteban Lepaul. Mais après, Creswell, moi, je l'ai trouvé excellentissime en première période. La deuxième, par contre, charrette monumentale. Dès qu'il fallait se retourner, c'était ultra dur. Bon, après, face au PSG, il faut effectivement tenir. Ah, mais c'est vraiment le genre d'équipe de Ligue 1 avec Rongier, Szymanski, Thomasson. Là, tu sens qu'il y a du QI foot. Ça peut passer au travers sur certains matchs. Mais là, tu sens que c'est une équipe qui va jouer le top 5.
Le vrai souci, c'est que, alors, défensivement, il y a une question. Et effectivement, il faut savoir si avec Boudlal reste. Et si c'est pas le cas, bah, faudra voir. Parce que la charnière, c'est un vrai sujet à Rennes. Global, depuis plusieurs saisons, Roux est pas assez au niveau. Depuis Aguerd et les fameuses saisons avec Aguerd, c'est compliqué. Donc, si Creswell avec Boudlal, ça marche comme ce soir, globalement, c'est quand même plutôt pas mal. Et après, en revanche, c'est devant pour épauler Lepaul. Moi, je vais pas faire de fixette. Altamari n'a pas fait un mauvais match et j'ai vu sa talonnade. Elle est décisive, elle est très intéressante. Voilà. Moi, vous savez ce que je pense d'Altamari, comme un peu pour Soumaré. C'est des joueurs trop limités techniquement. Je vous dis entre nous, Aize pense la même chose. Sauf que les dirigeants lui ont dit, on va garder Altamari, alors que Aize, lui, était plutôt enclin à s'en séparer parce qu'il veut aider Lepaul et il faut mettre plus de qualité au
ça reste un joueur positif quand même, Flo, moi je trouve.
Bien sûr. Mais je te dis toujours pareil, il faut être exigeant tu vois avec ce genre de club. Et donc je dis pas qu'Altamari est un mauvais joueur, je dis juste que si tu es à Rennes, tu veux avoir une attaque digne de ce nom et puis dis Soumaré Altamari autour de Lepaul.
Mais là tu regrettes Mbolo un petit peu parce que finalement le duo Mbolo Lepaul c'est aussi peut-être ce qui a permis à Lepaul de marquer 21 buts en Ligue 1.
De toute façon,
il manque United, c'est officiel depuis tout à l'heure là.
Il manque effectivement pour moi là un gros attaquant ou un complément si tu veux.
Mayenda c'est 22 millions mais c'est censé être le numéro 2 de Lepaul
un instant on aura Fred qui est supporter de Rennes, il donnera son avis, on va faire une évaluation ensemble, ensuite on parlera des autres matchs de Ligue 1 du jour, on ira en Espagne où le Barça a définitivement battu Elche 5-0, donc Barcelone démarre très bien la Liga là aussi.
Gilbert, oui, j'ai, un, j'ai un petit message d'Esteban Le Poll qui me confirme que la célébration, c'est bien un hommage à sa nouvelle passion, qui est le golf, Gilbert. Ouais. Qui nous rassemble aussi. Tu le sais, ça, je te l'avais dit.
Ouais, tout à fait, tout
donc,
tout
il a fait un swing de golf, tu sais, sur son but. Mm-hmm. Et deuxièmement, il est, je lui ai demandé c'était, ce qu'il pensait, quoi, de ce résultat. Il a dit plutôt satisfait quand même parce que c'est le premier match de la saison. Voilà.
La connexion golf de Florent Gautreau, c'est énorme. C'est fort. C'est fort.
Ouais. Voilà, rendez-vous au trou numéro 18 à 6 et bleu, ça,
Castel. Exactement. Un petit point sur le tennis. Antoine Brard suit le match Fischiafo. C'est la finale du Master 1000 de Cincinnati. Et pour une fois, on a un Français en finale. Donc, on le soutient. Antoine, où en est-on?
Et bah c'est beaucoup plus compliqué hein, pour le Français dans ce deuxième set. Il avait remporté la première manche 6-3. Et bien il est mené dans ce deuxième set 4-1. Voilà, beaucoup plus compliqué. Le match est emballé, les échanges sont beaucoup plus courts. Et ça réussit à l'Américain Frances Tiafoe, qui va là même avoir deux balles de double break. Il pourrait être double breaké et donc mener 5-1 s'il réussit à en convertir au moins une. Et donc voilà, c'est compliqué pour Fisk qui va serrer. On se dirige certainement hein, vers un troisième set pour essayer de remporter son tout premier Masters.
A tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à minuit bien sûr.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h32, l'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. L'after qui fait sa rentrée officielle demain soir. 21e saison de l'after. On aura plein de choses à vous dire à partir de demain soir, bien sûr. Avec une nouvelle fois une saison à surprise, comme toujours. Walid Acharchour pour l'instant est là. On est toujours sur Rennes PSG. Florent Gautreau et Aurélien Tiercin sont au stade à Rennes. Et Fred est avec nous, 32-16 supporters rennais. Salut Fred.
Bonsoir l'after.
T'étais au stade?
Salut Fred.
Effectivement.
Tu t'es adapté, c'était pas prévu, mais tu t'es dit je suis là, j'y vais, ah ouais. J'ai pris ma place moins chère que prévu.
Ouais, pas forcément, mais je me suis adapté. D'ailleurs, je voulais féliciter le club pour avoir su organiser ce match dans des délais restreints, avec une ambiance incroyable, comme bien souvent au Roazhon Park. Donc ça fait toujours plaisir de vivre des matchs comme celui-là.
Bon, est-ce que tu as des regrets ce soir?
Bah forcément j'ai des regrets parce que quand on voit le match que le Stade Rennais a fourni, on pouvait peut-être espérer mieux qu'un point, mais après avec analyse, le point du match nul, finalement on va s'en contenter. Moi je suis satisfait de ce que j'ai vu ce soir. Je trouve ça très encourageant. J'ai vu une équipe combative, j'ai vu des choses intéressantes, notamment au milieu de terrain avec un Rongier, Simanski et Thomasson dans un jeu en triangle dans les petits espaces. J'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'il y a une grosse débauche d'énergie avec une énorme combativité, comme je l'ai dit. Je trouve qu'ils ont su gérer leur temps faible. Bon, même si ça a fini par craquer, mais globalement les temps faibles ont été correctement gérés avec une grosse combativité. Je trouve que Brice Samba a fait son job aussi. J'ai trouvé aussi également que les contre-attaques placées avec les combinaisons de passes étaient aussi intéressantes. Je les ai trouvées proches, très proches du porteur, en allant chercher le ballon assez haut finalement. Et je suis aussi d'accord avec Flo sur le fait qu'il va falloir, je pense, recruter un attaquant en complément d'Esteban Le Poll, même si Mayenda devrait a priori remplir ce rôle-là, mais je pense qu'un Moussa Tamari, ce sera trop juste pour pouvoir l'épauler techniquement.
Après il y a un truc moi que j'attendais et que j'espérais surtout sur cette saison, c'est Aize. Parce que moi Aize, il a la carte, il a la cote, il a tout ce que tu veux, mais moi j'ai pas été hypé totalement par ce qu'il avait fait l'an dernier et il s'en était bien sorti. Il est très intelligent dans sa gestion aussi lui du vestiaire, donc il arrive à récupérer tout le monde. Mais là, je dirais que c'est pour moi c'est son intersaison. Le recrutement très tôt avec Thomasson, ils ont frappé un coup très fort très tôt. Il a un recrutement intéressant, mais effectivement peut-être encore un peu incomplet, donc on va voir où ça va. Et j'ai envie de voir maintenant la patte Aize, et je la vois plus. Tu vois, j'ai bien aimé sa conf tout à l'heure, qui n'était pas la conf d'un mec satisfait, qui aurait pu survendre un peu ce qu'il avait fait. Il a pas enfoncé ses joueurs sur ce qui s'est passé à Sunderland, alors qu'il y a eu des soucis. Parce qu'il estimait que le système n'était pas forcément le bon. Donc, tu vois, ça veut dire qu'il prend aussi sa part. Et là, je trouve que s'il a su, après ce match qui n'était pas vraiment bon, le dernier, remobiliser tout le monde, mettre un bon système, mais surtout avoir des joueurs. Ils étaient 3 sur 1 parfois. Ils ont été toujours au contre. Ils ont été toujours là, y compris sur les actions. Tu as vu le sauvetage d'Aïd Boudlal en première, le sauvetage de Samba. Donc, les gars, dans la mentalité, ils sont tous là. Et c'est sa patte. Mais surtout, dans le jeu, le 4-3-3 et tout, ça m'intéresse. Les sorties, effectivement, les attaques placées, le jeu au milieu, le recrutement de Thomasson, ok.
Mais on a l'impression d'avoir revu, moi, le lance, ouais, le lance de Franck Hez, l'intensité. Alors, il manque peut-être, paradoxalement, Seko Fofana,
les gars,
qui est officiellement encore au club.
On n'est pas encore là.
Non, pas encore. Par séquence, Walid, j'ai dit ça. Les contre-attaques, elles étaient vraiment léchées. Il y en avait plusieurs. Enfin, c'était évident que le Stade Rennais jouait une partition quasi parfaite dans ce système de jeu-là avec Frankowski. Bon, moi, que des anciens en soi. Frankowski qui était excellent en première période. Il a tiré la langue en deuxième. Après, le problème pour moi, c'est toujours Soumaré, Tamari, qui sont pas des points morts. On va pas dire ça parce que Tamari fait plutôt un bon match ce soir. Mais ça va vraiment être le problème. Bon, contre des blocs bas, encore plus avec deux ailiers qui savent pas dribbler.
C'est surtout face aux blocs bas qu'il faudra voir, faudra regarder les petits matchs quand ils vont être attendus au Roazhon Park. C'est là où on va juger véritablement la marge de progression du jeu de Francaise. Francaise, on sait très bien contre les gros, que ce soit à Nice ou à Lens, il a toujours réussi à s'adapter, à être très très fort. Et je trouve moi que sur la première mi-temps, il suroptimise très très bien, surtout en transition, parce que c'était pas donné de voir Le Pol, Soumaré et Altamari, même si c'est des joueurs d'espace, mais Le Pol un peu moins. Je le voyais beaucoup plus joueur de surface, moi, sur les dernières années, être aussi impactant face à Pacho, face à Hakimi, face à Marquinhos. Après, il y a eu une équipe qui a été valeureuse. Faut pas oublier qu'il y a quand même des sauvetages dans la surface de réparation en première mi-temps, que Samba, il fait un arrêt monstrueux sur Zaïre Emery, début de deuxième. Donc, ils ont fait ce match-là, le match qu'il fallait contre le Paris Saint-Germain. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'ils ont la balle du troisième, juste derrière. Donc, ils sont pas affaissés, parce que une équipe rennaise aurait pu aussi être sonnée du deuxième but et perdre le match sur la fin de la rencontre. Donc voilà, ils font ce point-là. Ça reste quand même positif. C'est un message positif. Maintenant, pour avoir ce Francaise version RC Lens, faudra pour moi attendre les prochains matchs et surtout une palette d'adversaires bien plus large.
Faut qu'on avance. Conclue vite, alors, s'il te plaît, parce qu'après qu'on parle de Le Pol qui était dans vos trois points.
Je voulais en parler,
enchaîne sur Le Pol.
Le Pol, où c'est intéressant, et pour en avoir pas mal parlé avec son entourage dans l'été, il est en train de progresser sur le jeu justement en dehors de la surface. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il le souhaite, c'est qu'il le sait et qu'il était insuffisant dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui se dit bon, moi j'ai enfin signé mon gros contrat, moi je suis un joueur de surface, puis basta. Pas du tout. Il a envie d'être plus impactant dans le jeu. Et reprenez l'action du premier but, vous verrez la déviation de la tête pour Thomasson qui fait la diff, et il est très loin du but à ce moment-là.
Parce qu'avant il se serait retourné pour prendre la profondeur, et là il réfléchit.
Il est un joueur de surface. En fait, sur les deux buts, tu as le pôle entre guillemets qu'il faudrait avoir, comme a dit Hez, et il est exigeant, t'as entendu, il a raison. Il faudrait avoir le Pol, les deux versions. Celui de surface, on connaît, il va te mettre ce genre de but, c'est dingue aussi. Mais celui qui revient, qui va faire un peu de jeu, qui va faire la planche, qui va faire des remises, il l'a pas assez fait. Et moi, pour en avoir discuté avec son entourage cet été, ce qui était bien, c'est que tout le monde a dit mais non, on en est conscient. Et est conscient, et il veut progresser là-dessus, il veut pas s'arrêter là.
Vrai, parce que si je suis relou, quand on parle d'équipe de France pour Esteban Le Pol, il y a pas mal de ballons où il est dos au but, les contrôles, contre le PSG, quand ils sont à 1 mètre, 1 mètre 50, tu perds le ballon un peu trop rapidement et t'arrives pas à caler les ballons. On peut difficilement lui en vouloir sur un match comme ce soir où le but il est magnifique.
Mais moi, les gars, sur la première demi-heure, tout ce qu'il fait, c'est parfait.
Moi,
je vous le dis, la première demi-heure de Rennes, si Rennes mène au score, c'est le grand artisan. On peut me parler de ce qu'on veut, le milieu de terrain, etc. Le grand artisan, c'est Le Pol. C'est que aujourd'hui, moi, il envoie sa candidature en équipe de France, parce que
j'ai l'envoyé à la Coupe du Monde.
Mais non. Moi, j'étais de ceux qui temporisaient, parce que je crois que Flo en avait parlé. Moi, j'ai dit non. L'histoire, elle est déjà faite avec Deschamps. Je crois que Flo avait fait un avis tranché là-dessus en disant, il nous faut un mec de son profil. Là, aujourd'hui, si Le Pol devient ce mec connecté au reste de l'équipe, qui peut caler les ballons, qui peut fructifier le peu de transition que Rennes peut avoir dans des matchs difficiles, et être ce joueur efficace dans la surface de réparation façon attaquant des années 90 de Ligue 1, voire plus. Mais là on va avoir un super attaquant, et on peut parler des trajectoires à la Giroud, ce type de mecs qui ont la dalle, qui ont la détermination de continuer à progresser, cette intelligence pour essayer de franchir les étapes, parce qu'on va pas refaire l'histoire. On va pas faire un réel brut en deux minutes en disant oui, Esteban Le Pol, il y a 3 ans, il était à Épinal. Ça, c'est bon, on a compris. Mais ce que je veux dire, c'est que Esteban Le Pol continue, semaine après semaine, à étoffer sa palette et à gravir, en fait, les échelons avec beaucoup plus de pression. Parce que là, Flo l'a dit, nouveau contrat, le mec qui rentre à 60 000, je crois, l'année dernière, brut par mois. Là, il y a une revalorisation, il a des sollicitations. Donc là, Mbolo part en MLS, ça va être l'attaquant. Avant, c'était le joueur qui arrivait à 13
millions. La star du club.
Voilà, la star du club. Premier match PSG, le mec, il est dans les deux bons coups du soir. Non, franchement, et même dans le contenu, c'est vraiment top. Si Zizou est devant la télé ce soir, il peut pas rester insensible à ça. En tout cas, moi pour moi, s'il continue comme ça, il sera appelé. Il sera.
Sauf que, oui, t'as raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, néanmoins, ça risque d'être fatigant s'il n'a pas un plus grand soutien. Parce que l'an dernier, quand Mbolo, il n'a pas toujours été bon Mbolo, mais il l'a été aussi parfois, en tout cas la complémentarité est là, en dehors de ce jeu connecté à d'autres endroits du terrain, y compris dans la surface, à l'ancienne, comme tu disais, un peu années 90, le joueur de pivot c'était l'autre, et lui qui tourne autour et qui va marquer des buts, ça aussi ça pourrait être intéressant, tu vois, de l'avoir. Et ça, pour l'instant, on l'a pas. Et la deuxième période, il était un petit peu plus isolé, c'était un peu plus compliqué. Alors c'est un match très particulier, le match contre le PSG.
Mais même en deuxième période, il y a des ballons, comment il oxygène le jeu. Moi sincèrement, c'était son gros défaut l'année dernière. Ouais, et je disais, non, mais les gars, et puis en plus, nous, on l'a rencontré l'année dernière, on a fait l'after, etc. Franchement, super mec. Et je disais, non, mais les gars, je veux pas être méchant avec le Paul. Pour l'instant, c'est un buteur. Pour l'instant, et au très très haut niveau, tu ne peux pas être qu'un buteur pour aller en équipe de France. Il faut une palette plus globale. Et là, il est sur le chemin. Il est sur ce chemin-là. Et moi, ce soir, et même en prépa, parce que j'ai vu le match contre Galatasaray, il y a des actions, il y a des gestes, il y a des déplacements de très haut niveau. Sincèrement, moi, qu'il continue comme ça, vraiment, qu'il continue comme ça.
Sur l'évaluation, les gars, est-ce qu'il y a un autre joueur que vous voulez évoquer? Alors, vous avez un peu rhabillé Soumaré tout à l'heure. Le milieu Rongier, Thomasson, Szymański, là, on a l'impression que c'est déjà bien installé, quoi.
Ça va être fiable, ça.
Ouais, ça, c'est très intéressant parce que je dirais même que c'est très partagé entre les trois. Tu vois, on voyait beaucoup plus Rongier quelque part l'an dernier parce qu'il était parfois un peu seul. Là, évidemment, il a autour de lui d'abord deux très bons techniciens. Donc, Thomasson, Rongier, Szymański, c'est très bon. Il faut souligner aussi quand même.
Apparemment, Fofana pourrait retourner à Porto, d'ailleurs, c'est dans les infos du joueur.
Ouais, il va être prêt à Porto. Et puis, c'est une bonne nouvelle aussi pour Rennes, parce que je pense que l'histoire, elle peut pas s'écrire avec Seko Fofana, elle doit s'écrire avec les autres. Thomasson, le recrutement tout début de mercato, pour moi, c'est une grande, grande chose pour le stade rennais. Et au milieu, ils sont parés. Là, il n'y a rien à dire.
Szymański, on n'en parle pas beaucoup finalement. Il avait quand même de Fenerbahçe. Il avait une cote à un moment donné. Et le but qu'il met, extérieur du pied, poteau rentrant, il est exceptionnel. But, hein. Ouais. Il tient debout quand même. C'est vrai qu'on en parle moins que les deux autres qui sont des valeurs sûres de la Ligue 1, archi sûres, Rongier, Thomasson. Mais c'est vrai que Szymański, je pense que c'est peut-être un des gars les plus sous-cotés de Ligue 1 parce qu'il fait pas trop de bruit, les Polonais.
Ils ont un petit défaut tous ou pas, mais c'est que parfois ils jouent très très collectif, voire trop. C'est-à-dire que Szymański,
un peu scolaire.
Moi, tu peux te dire.
Szymański quand il va frapper sur son but là et il prend.
Non, en l'occurrence. Et d'ailleurs, lui prend souvent la frappe. Il a vraiment un pied gauche. Rongier a ce défaut là. On disait qu'il prenait jamais de frappe, qu'il prenait alors qu'il est capable aussi.
C'est sûr que Thomasson, il a pas la frappe de Szymański à 25 mètres. Il l'a pas.
Non, mais Thomasson juste se projette plus et va parfois aller. Il a marqué plus que Rongier, Thomasson. Donc il va y avoir des choses intéressantes. C'est pas forcément sur ce match-là qu'on le verra.
Moi, j'aime bien Najida, moi.
À 100%.
Ah, mais exceptionnel. Ouais, très bon match. Exceptionnelle progression. Très bon.
Moi, c'était le grand gagnant du départ de Bale l'année dernière, et même sous Franquet sur la fin de saison, c'était un joueur qui avait retrouvé véritablement de la confiance, et il a des jambes, il est athlétique pour la Ligue 1, c'est quand même un latéral moderne qui te fait avancer le jeu, quand même.
Après, il
a des choix, ouais, mais ramener le ballon en Ligue 1 dans ces zones-là, c'est quand même souvent positif pour le football proposé par Franquet, je pense.
C'est un vrai sujet, parce que si tu veux, Merlin, ça commence à tirer la langue, donc c'est très bien d'avoir un Najida à ce niveau-là. Côté droit, je dirais juste que Frankowski fait plutôt un bon match. L'an dernier, c'était pas bon. Je me méfie un peu parce que je me demande s'il est capable de faire une saison pleine maintenant, le Frankowski qu'on a.
Il était cuit à la fin du match.
Ouais, de retrouver le Frankowski qu'on a connu avant. J'ai encore un tout petit doute, mais en tout cas, sur ce début de saison, Najida, Frankowski.
Et le facteur X, ça sera Creswell. Est-ce que c'est le Creswell de la première mi-temps ou de la deuxième? Et surtout, Creswell à Toulouse, c'était bloc bas avec Carles Martinez Novel. Dans une défense à 3, il était monstrueux. Maintenant, si tu joues à 4 et si Franquès veut jouer quand même, veut aller chasser haut, j'espère qu'Aïd Boudlal sera très bon dans la profondeur et qu'il restera au club. Mais pour moi, ça va être vraiment la question de quand on parle de podium pour Rennes, c'est la charnière centrale. C'est vraiment, c'est est-ce que Cresswell, coup de pied arrêté, offensif, défensif, est-ce que derrière il va pouvoir être très solide? Je suis très curieux de voir ça. Et en plus, ils ont mis les sous qu'il faut pour se renforcer. Donc ça va être intéressant.
Un mot de côté Paris, il y a des joueurs qu'on n'a pas cités, avec les trois milieux là, que ce soit Vitinha, Neves, Zaïre Emery,
pas inquiet, mais je trouve son début de saison un peu à l'image de sa Coupe du Monde, et je suis un grand grand fan.
Hakimi.
Non, Pacho.
Ah, tu veux dire que bien de Pacho.
Non, au contraire, je veux dire que je le trouve moins serein, moins solide. Contre Aston Villa, il s'était fait bouger par le petit Majo. Contre Lens, je trouve que il a pas les jambes, il a pas encore les jambes, c'est une reprise véritablement.
Après c'est lui qui sauve le 3-2.
Oui, sur le 3-2,
mais ça de son match quand même.
Ouais. Oui, mais après il est pas aidé par Lucas Hernandez, etc. Mais je trouve que globalement son début de saison et même sa Coupe du Monde n'était pas gigantesque. Tu parlais d'Hakimi, moi j'ai beaucoup aimé Hakimi, moi.
Ah oui, très bon.
Hakimi, ce soir, on parlait d'état d'esprit et d'exigence. Il a fait un 15-15 pendant toute la rencontre. Un test Cooper, il a fait un test Cooper.
Ah, c'est clair.
C'était impressionnant. J'étais très bon test Cooper, moi, quand j'étais petit.
Sérieux?
Ah, vraiment, mais tu vois pas.
En fait, le problème, c'est que
je ne vois pas du tout bon.
Je te l'ai déjà dit que j'étais un faux gros, Gilbert.
Attends, depuis, on t'a vu courir aux États-Unis, Walid.
Tu m'as pas vu courir.
Arrête. Tu cours lentement.
Ah oui.
Si, j'ai un film que j'ai fait depuis ma chambre d'hôtel.
À 16-17 ans, je faisais un test Cooper
très solide. Test Cooper et cross du collège.
Très solide. Cross du collège, j'ai fait des petits podiums, cross du collège.
Ah ouais.
Ouais, podium. Podium. D'accord.
Très bien.
Ouais, j'avais un vrai cardio.
Je sais pas si ça existe souvent, le cross du collège.
Non, je sais plus, mais c'était bien.
Non, mais le test Cooper, il n'existe plus. Hein. Ils en font un autre.
Ah ouais, il y a plus le bip bip là où ça faisait bip à chaque.
Ouais, il y a un bip, le bip il fait mal.
Ah ouais, le bip.
Quand t'es un peu loin de la limite là.
Il fait très mal. Vache. Mais en tout cas, Hakimi, je pense qu'il a pas mal quand tu lui fais le test Cooper.
Bon, je remercie Fred au 32-16. Voilà pour l'évaluation. Voilà pour ce match entre Rennes et Paris.
C'était bien en tout cas.
Ah, c'était très bien. Oui, on va remercier Aurélien. Ouais,
ciao les amis.
On va continuer avec les autres matchs de Ligue 1 du soir. Et puis on va parler aussi de Boily. L'info RMC de l'après-midi, transfert à 100 millions pour Lille. Boadi part à Manchester City. On en parle dans quelques instants. Sans oublier le tennis, parce que le match Fils-Tiafo est toujours en cours. Antoine et Tiafo s'est fait soigner longuement là, à la fin du deuxième set. Il y a un set partout. Donc, je ne sais pas dans quel état il est.
Ouais. On se pose des questions. Est-ce un problème articulaire, un problème musculaire? On ne sait pas. Il a demandé ce fameux medical time-out, le temps mort médical. Il s'est fait manipuler le genou droit, masser la cuisse. On se demande à voir si ça a un impact. Pour le moment, ça n'a pas d'impact puisqu'il y a toujours un set partout et donc 1-0 pour Arthur Fils dans ce troisième set et dernier set, décisif pour cette finale du Masters 1000 de Cincinnati. Et 40 as sur le jeu de service de Tiafo. Peut-être une balle de break à venir pour Arthur Fils. Mais voilà, balle de break à venir pour Arthur Fils donc dans cette finale.
Allez, Arthur,
on l'espère.
Allez, Arthur, c'est maintenant.
Il ira au bout, parce que voilà, on le dit, ça fait 12 ans qu'on attend une victoire française dans un Masters 1000, donc un set partout, mais peut-être balle de break pour Arthur Fils face à Princesse Tiafo.
Bon, on va rester pour la balle de break, c'est marrant, parce que moi j'imaginais Walid au cross du collège se planquer derrière un arbre.
Ah non, pas
pour attendre
tout.
Le tour d'après.
C'est ça ton problème, Gilbert, tu sous-cotes les gens.
Allez, la balle de break.
Ouais, le jeu de. Le service, ça passe à côté, il va y avoir un deuxième service pour Frances Tiafo. Lui aussi peut remporter son tout premier Masters 1000, ils sont tous les deux dans ce cas. Donc à voir ce que ça donne sur cet échange. Allez, on espère que Arthur Fils va réussir à trouver la faille. L'échange est long, ça tient. C'est long mais ça tient, ça joue fond de court, hein, vraiment, ça joue fond de court. Et toujours,
c'est fait,
balle de break pour Arthur Fils, donc qui prend la bonne voie dans cette finale pour aller chercher cette victoire en Masters 1000, au Masters 1000 de Cincinnati. Donc 2-0 pour Arthur Fils dans ce troisième et dernier set de cette finale.
Bon, Antoine, tu débutes, mais sache qu'il faut t'inspirer des plus grands. Dans ces cas-là, quand c'est l'échange de fond de cours qui dure, Eric Salio dit l'échange s'installe.
Ouais, je vais m'inspirer des meilleurs.
L'échange s'installe.
C'est bon.
Allez, à tout de suite dans l'after, encore 10 minutes ensemble.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h51, Walid Acharchour est là, Florent Gautreau est là, lui aussi bien sûr. 2-0 donc pour Arthur Fils, qui va peut-être gagner le Master 1000 de Cincinnati. On espère, s'il pouvait finir ça avant minuit, ce serait parfait. Bon, 10 minutes, c'est peut-être un peu court. Mais en tout cas, l'after est sur le match. Avant de parler des rencontres de Ligue 1 de l'après-midi, de la victoire de Monaco au Havre 1-0, de celle de Lille à Angers, 2-0. Donc, Ayoub Bouadi s'en va, transfert à 100 millions d'euros. Contrat de 5 ans plus 1 an en option, nous dit Fabrice Hawkins, qui était sur le coup, qui nous a balancé toutes les infos tout à l'heure à 11h57 du matin. Bravo Fabrice, une nouvelle fois exclu à RMC Sport pour lui. C'est à mettre à son palmarès, ça, Fabrice.
Exactement.
Le faucon est là.
Le faucon est toujours là.
100 millions d'euros pour Bouadi après.
100 millions d'euros, c'est un trophée. Hein.
Après notamment sa Coupe du Monde, enfin. Ouais. Son début de Coupe du Monde, oui. Parce qu'après il s'est un peu.
Même les deux saisons, le match contre le Real Madrid, la Ligue des Champions. Ouais. Mais
du coup, il n'a pas joué cet après-midi.
Il n'a pas joué. Et moi, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Flo, mais l'image de voir Olivier Létan à côté d'Ayoub Bouadi pendant le match en tenue lilloise, c'était. Mais j'ai trouvé l'image complètement dingue. Ça montre le président qu'il est, fort, le club. C'est la gestion du transfert d'Ayoub Bouadi. C'est grande classe, c'est masterclass. Ouais.
C'est clair. Et après, moi, j'espère beaucoup, mais j'ai un avis un peu différent de celui de Cherki à City, parce que c'est pas le même entraîneur.
Passage Cherki qui a fait un match incroyable,
mais
en partie
City était mené, City a gagné, mais je veux dire par là que ce qui m'intéresse juste, parce que Bouadi, moi j'en ai parlé et j'adore ce joueur, effectivement après il s'est un peu éteint sur la fin de la Coupe du Monde, mais peu importe, c'est un joueur de grand talent. Après, ce que je dis avec Cherki, c'est qu'il tombait sur Guardiola, et tu peux espérer, dans ces cas-là, tu vois, te bonifier au contact de cet entraîneur. Donc, moi, c'est juste la question que je me pose, vu qu'il y a une forme de transition. Oui. L'après Guardiola, tu arrives dans une autre histoire de City. Donc voilà, après, c'est un super joueur. C'est une super recrue pour City aussi. Mais voilà, moi, j'ai juste cette interrogation-là sur la progression et le coach qui peut ou pas lui faire gagner, on va dire, des...
Tu peux parler de l'après Guardiola, mais c'est surtout l'après Rodri. Hein.
En plus, effectivement.
Bon, maintenant, si on voit ça du côté lillois, on est quand même sur une vente exceptionnelle.
C'est pas exceptionnel, c'est exceptionnel.
Bon, après,
joueur formé 100 millions d'euros.
Je pense que l'ensemble du football français, on a des vendeurs. Franchement, quand tu vois des cas particuliers.
Ah, Morera, là, 60 millions à Milan, on n'en a pas parlé. Mais
j'ai mon N6 à 35.
Ah, oui,
complètement fou.
Aladji Bamba, 40 millions à Newcastle. Aladji Bamba qui était remplaçant quand même à Monaco. Il y a des choses, c'est extraordinaire.
Franchement,
Ayoub Bouadi, 100 millions, c'est très cher, mais Ayoub Bouadi, c'est jeune crack, 18 ans, un monstrueux, et tout, etc. Ça s'explique en Angleterre, ça s'explique un peu plus. Mais Lille, en deux ans, ils ont fait quoi? Lenny Yoro, 60 bâtons, et là, Ayoub Bouadi sans bâton, et en plus je sais pas si tu as vu, c'est là où il est trop fort en fait, Létan, la conférence de presse de début de saison où il tense son centre de formation parce qu'il dit qu'il dépense 11 millions d'euros par an sur son centre de formation et qu'il est obligé d'aller chercher des latéraux parce qu'il a pas assez de latéraux qui peuvent remplacer Meunier qui part à Sunderland. Donc le mec lui aussi il est comme Luis Enrique, il est les gars je paye, il me faut alors qu'il vient de sortir Bouadi et Yoro en deux ans quand même. Je pense que il y a beaucoup de centres de formation qui aimeraient que
faudra aussi qu'on se penche sur ce qu'on fait de cet argent qui rentre.
Oui, ça c'est sûr.
Parce que là,
est-ce que tu réinvestis
ce qu'ils font. Ouais. Et là, Strasbourg, par exemple, vend pour 170 millions. Qu'est-ce qu'on fait de l'oseille?
Est-ce qu'il
part uniquement chez les actionnaires in the pocket?
Ah oui, ça c'est sûr.
Non, il part pas uniquement, mais il part en partie pour ça. Ouais. Et c'est tout le problème du modèle économique français à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tu vends très bien, il y a très bons vendeurs. T'as des clubs qui, c'est légitime, doivent vraiment vendre, ne serait-ce que pour recruter un peu. Je me souviens, on avait parlé, tu sais, quand on est allé à Toulouse avec l'After, avec Olivier Cloarec, qui est un très bon vendeur, au passage, qui était un vendeur à Rennes, et qui est un bon vendeur à Toulouse. Mais il me dit, mais moi, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que avant de commencer, c'est un peu ce qui arrive à l'OM, mettons cet été, là. Pour commencer à recruter, je dois vendre. Mais après, t'as ceux qui vendent tellement bien, comme Létan, ou comme d'autres.
On a oublié le Chevalier, 55 bâtons aussi.
Ouais, mais justement, et là tu te dis, ok, très bien, mais effectivement, on voit pas le retour sur investissement sportif, on le voit pas suffisamment pour le club français. C'est là où, quelque part, c'est là que tu as une dépréciation après du niveau de la Ligue 1. C'est évident. C'est évident que, ok, tu vends bien, ok, tu as sur tes arrières, mais aujourd'hui où tu n'as pas t'as pas de droit télé ou quasiment, enfin, ou très peu de droit télé. Effectivement, la gestion de ce que tu vends, enfin, les plus-values que tu fais, on les voit pas forcément derrière sur le terrain, et c'est un des enjeux du foot français actuel, quoi.
Bon, et merci aux Anglais, parce que c'est eux qui payent, hein, globalement, quand même.
Oui, c'est clair.
Ouais,
c'est
sauf, clair. Oui, Morera Milan, c'est les Italiens, mais enfin...
Et au passage...
C'est plus surprenant, en fait, Morera, c'est que c'est le Milan.
Ouais, au passage, pour les temps, c'est intéressant aussi de voir, dans cette intersaison, aussi sur l'image qu'il donne, à la fois, bon, donc, de vendeur, du club Lille, qu'il a quand même remis sur les rails financièrement. Après, moi, je l'ai critiqué sur plein de choses, et il s'est un peu calmé, tu sais, sur sa façon de gérer l'arbitre et l'arbitrage, tu sais, sur les bords de terrain. Mmh. Et dans la saison dernière, il avait opté pour un profil plus bas. Mais quand t'écoutes David Ancelotti, c'est intéressant, quand il dit pourquoi il est venu. Il dit qu'il avait un coup de fil à 2h du mat de son père, Carlo Ancelotti, enfin, ou je sais plus, ou l'inverse, et en gros, il lui a dit, mais est-ce que je dois y aller ou pas? Parce que Carlo Ancelotti ne disait pas que c'était Lille. Et en fait, en gros, Carlo Ancelotti dit à son fils, non, vas-y, les yeux fermés. Et pourquoi? Parce que c'est Olivier Létang. Parce qu'Olivier Létang, Carlo Ancelotti, son pote. Donc, si tu veux, t'as aussi l'image, t'installes l'image d'un président, tu vois, qui tutoie les grands, qui a le réseau,
ah oui,
qui est là.
C'est aussi le président qui veut la compo et qui donne son avis sur tout.
Il y a une gestion sportive et une gestion financière. Ça reste quand même du très haut niveau.
Vous voulez dire un mot sur les matchs, les gars, que ce soit la victoire de Monaco ou de Lille, ou...
Moi, j'ai bien aimé la semaine monégasque.
Entre la Pologne.
Ouais, et puis avec des joueurs qu'on découvre, Sadi Boussané de Metz qui a fait un gros match, même Nazinho latéral vraiment bien. Ils ont réussi à faire un peu tourner aussi sur cette semaine. Ils ont été un peu en difficulté sur la fin de match face à une équipe du Havre qui a poussé, mais globalement les 25 premières minutes ont été dans un très bon niveau. Zakaria et Camara encore une fois très très fort. Il y a encore le cas Biret qui malheureusement est problématique, et va falloir véritablement que si Balogun part, que Ablin prenne ses responsabilités au poste d'attaquant, lui qui est un peu blessé. Mais Monaco, belle semaine d'observation de Philippe et Louis, et résultat important.
Allez, le tennis pour conclure, parce que Arthur Fils a peut-être fait le plus dur pour gagner un Master 1000, Antoine.
Et oui, 4-0 pour Arthur Fils dans ce troisième set. Il a double breaké et il mène 30-15, hein, sur son jeu de service pour aller donc mener 5-0. C'est incroyable, hein. Franchement, il était passé complètement au travers de son deuxième set en le perdant 6-1. Il avait remporté la première manche 6-3. Et donc là, on se dirige, voilà, 40-15. Donc on se dirige vers un 5-0 pour Arthur Fils qui va certainement donc aller chercher, on l'espère en tout cas, son tout premier Masters 1000, le premier pour un Français depuis 12 ans. Donc vraiment bravo à lui, de bon augure, hein, avant l'US Open, hein, qui démarre dimanche prochain.
Et juste un dernier mot pour l'équipe de France de Cifoot, qui a gagné le championnat d'Europe en France contre l'Angleterre.
Après, on va gagner les Jeux.
Exactement, avec un Frédéric Villeroux. Regardez les vidéos sur les réseaux sociaux. Incroyable. Sincèrement, c'est les buts qu'il met. Il a encore mis un but incroyable aujourd'hui. Et moi, je suis complètement fan du joueur. Moi, je me demande même si.
Certains disent meilleur que quelques élites ligues.
Ah, bah, quand j'ai vu le multiplex hier, je me demandais qui. Non, mais vraiment, je suis premier degré. Vraiment, le joueur, il te fait des croquettas, là, Iniesta et tout. Non, mais c'est bluffant. Regardez sur les réseaux sociaux, même les plus jeunes, sur TikTok, sur Instagram, Frédéric Villeroux, le GOAT.
Très bien.
C'est vrai, il est très, très fort.
Je regarde juste. On espère qu'Arthur Fils, on est obligé de s'arrêter, mais allez sur rmcsport.fr où Antoine continue de suivre le match d'Arthur Fils qui va peut-être mener 5-0 dans quelques instants. Walid,
oui,
c'est fait. 5-0. 5-0, il a un jeu de la victoire en Master 1000. Salut Flo, à demain.
Salut, Walid, à demain.
Bonne soirée, l'after demain à 22h. Retour des drôles de l'âme également demain à 20h. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.